18-20.
Le 18-20 ce soir sur le paysage politique français. À droite, victoire franche et nette de François Fillon et départ à la retraite ou cessation progressive d'activité pour Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. L'ensemble est un événement au sens strict dans l'histoire des droites en France. À gauche, historique mais pour d'autres raisons, la bataille entre un Premier ministre et le Président de la République. Bataille de plus en plus ouverte avec un parfum de crise de régime, même si l'Élysée a dit aujourd'hui qu'il fallait circuler car il n'y avait rien à voir. Ce n'est pas la seule question qui se pose aujourd'hui à la gauche. Participer ou non à la primaire, quel candidat, quelle ligne politique, tous ces sujets sont encore ouverts et on en parle ce soir au téléphone sonne.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et vous êtes déjà très nombreux au standard, vous pouvez nous joindre également par Twitter avec le mot-clé Telson, par courrier électronique à l'adresse franceinter.fr 01 45 24 7000 pour ceux qui préfèrent le bon vieux téléphone. Bonsoir Jean Placide.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Grenoble et vous avez la parole.
Voilà, alors moi je disais que jamais l'élection présidentielle ne s'est faite comme on l'entendait. C'est-à-dire que les jeux sont loin d'être faits. C'est-à-dire même si à droite, au jour d'aujourd'hui, il est clair que le candidat qui est susceptible de l'emporter, c'est François Fillon. Mais moi, j'ai dit quand même que la gauche a une chance historique de prendre les Français à contre-courant en présentant un candidat qui puisse faire l'unanimité à gauche. Et ce candidat, pour moi, serait plutôt une candidate, à savoir Martine Aubry, Ségolène Royal ou Anne Hidalgo, qui est maire de Paris, qui a fait preuve d'une certaine capacité à rassembler les différentes composantes de la gauche et qui gouverne la première ville de France.
Mmh. Merci Jean Placide pour cette intervention. La gauche a une occasion historique à saisir. On va en parler avec Brice Teinturier. Bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Laurent Bouvet, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Laurent Baumel, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur le député PS d'Indre-et-Loire, cette occasion historique qui se présente à la gauche. Bon, vous en pensez quoi, Laurent Baumel ?
Notre auditeur n'a pas tort de dire que le fait que la droite ait désigné François Fillon, qui donc porte un programme quand même assez radical, disons du libéralisme assez violent, assez brutal, pourrait en théorie réouvrir cette élection présidentielle et redonner un peu d'espace à la gauche. Évidemment, la difficulté de la gauche aujourd'hui, je pense qu'on va en parler tout au long de cette émission, c'est la fragmentation de son offre électorale qui fait que même si elle avait un score potentiel, un espace électoral potentiel de 35-40%, si elle le divise en 3 ou 4 candidats et qu'il n'y a pas de dynamique autour d'un candidat, les choses seront difficiles
c'est,
pour elle.
C'est la gauche la plus bête du monde, Laurent Baumel?
Non, c'est une gauche
qui est en France.
Non, c'est une gauche qui vient de vivre un quinquennat perturbant, traumatisant et qui est traversé par des débats qui sont des débats sérieux, qui sont nobles. Si vous voulez, on a eu dans le passé, dans l'histoire du Parti Socialiste, des querelles d'hommes ou de femmes autour d'une question de leadership. Là, vous ne pouvez pas dire que les débats qui traversent la gauche française aujourd'hui soient médiocres. Ce sont des débats sur son identité, sur sa ligne politique, sur finalement sa raison d'être.
Laurent Bouvet.
Oui, tout à fait. Il y a à la fois des querelles de personnes. Il y a des incompatibilités d'humeur. Ce sont pour la plupart des gens qui ont gouverné ensemble, qui ont pris le pouvoir, qui ont été portés au pouvoir en 2012 ensemble et qui ont gouverné tout en partie le quinquennat ensemble. Il y a des questions très importantes. Je pense là, Laurent Baumel a tout à fait raison de lignes de clivage économique sociale. On l'a vu sur la loi El Khomri. Des questions sur l'identité. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce que c'est qu'être français, etc. On l'a vu avec la déchéance de la nationalité, on l'a vu à de multiples reprises. Il y a aussi une question sur la manière dont aujourd'hui on utilise un parti politique. Qu'est-ce qu'un parti politique? Comment on construit? Qu'est-ce que peut être la gauche de demain? Est-ce que le parti a toujours sa place? Les formes. Et là, les primaires, évidemment, sont un signe, depuis déjà la dernière élection, que les partis n'ont plus toute la place et tout le rôle. Donc ça déboussole quand même beaucoup de gens à gauche qui étaient habitués à ces formes, à des procédures, etc. Donc il faut aussi prendre ce fait en compte. La question, évidemment, est la question de la division de la gauche. Parce que la gauche a un potentiel électoral qui pourrait être important. On sait, par exemple,
par rapport le total au, gauche, comme bah, on dit.
Par rapport à la proposition de si on n'en prend qu'une, de François Fillon, de la suppression de 500 000 postes emplois dans la fonction publique, on voit bien que la gauche a là un terrain sur lequel elle pourrait intervenir en étant la protectrice de la fonction publique. Un rôle que peut jouer aujourd'hui, et c'est le danger qui s'ajoute à tout ce qu'on a dit pour la gauche, beaucoup plus efficacement qu'elle, Marine Le Pen, par exemple.
Brice Teinturier.
D'abord, la remarque de votre auditeur est juste en ce qu'il ne faut pas confondre le corps électoral qui a propulsé très nettement François Fillon en tête de cette primaire et l'ensemble des Français. C'est 4 millions d'électeurs, très particuliers dans leur profil sociologique et dans leur profil politique. Deuxième élément, bien évidemment, alors que la campagne présidentielle n'a pas commencé, on n'essaye pas tout de suite de dire que les jeux sont faits ou quoi que ce soit de ce genre. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la gauche est très en retard. Elle est en retard au niveau idéologique et programmatique parce qu'elle n'a pas tranché justement un certain nombre de points clés qui viennent d'être évoqués, alors que la droite est malgré tout, même si elle est diverse, beaucoup plus unie idéologiquement. Et puis la gauche n'a toujours pas désigné son candidat et n'a pas fédéré du coup un espace d'électeurs derrière ce candidat. Donc oui, les choses restent toujours ouvertes, mais il y a quand même un retard là pour la gauche qui est important et qu'il faut pointer.
Et sur le dernier point que soulevait Laurent Bouvet avant de repartir au Standard, le fait que cette occasion historique, comme le disait notre auditeur, puisse être captée par le Front National de Marine Le Pen.
Il y a deux aspects dans la candidature aussi de François Fillon et des rapports avec le Front National. Le Front National ne va pas disparaître. Il n'y a pas une rebipolarisation qui va tout à coup se mettre en place et un Front National qui disparaîtrait, bien entendu. Il y a une composante aussi populaire dans le Front National qui non seulement va rester, mais qui peut même peut-être grossir. Inversement, je pense que François Fillon peut venir rattraper les électeurs de droite. On sait qu'il y a beaucoup de porosité, qu'il y a eu beaucoup de porosité entre une droite classique, traditionnelle et le Front National. Et une partie de ces électeurs-là peut revenir sur le programme assez conservateur en termes de normes, de valeurs, etc., développé par François Fillon.
Sur un scénario Sarkozy 2007, voilà, c'est-à-dire qu'on ignore, reprend une partie de l'électorat au Front National.
Ce qu'on ignore, en tous les cas, ce que moi j'ignore, c'est quel sera le solde entre la composante populaire et ses électeurs de droite partis sur le FN et qui peuvent éventuellement revenir sur François Fillon.
Sur ce point très important, Laurent Baumel, le Front National, puis Olivier Ostendard.
Mais je pense qu'il y aura le même type d'enjeu dans la primaire de la gauche, c'est-à-dire qu'en fonction de qui sortira de cette primaire de la gauche, on peut avoir ou non un candidat. Moi, je soutiens Arnaud Montebourg, vous l'avez pas dit, donc pour la clarté du débat vis-à-vis des auditeurs, je le dis, on peut avoir un candidat qui est en mesure, du fait des inflexions qu'il porte, et notamment, par exemple, de la lecture qu'il porte de la question européenne, de récupérer une fraction, pas la totalité, mais une fraction des électeurs populaires qui viennent de la gauche et qui sont allés par dépit vers le Front National.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Vous nous appelez du Var, vous avez la parole.
Merci. Écoutez, je vous appelle du Var, précisément de la Seyne-sur-Mer. Juste un petit rappel avant de poser ma question. La Seyne-sur-Mer, c'est une ville de gauche dans laquelle l'équipe municipale, elle est composite et il y a toutes les composantes de la gauche. Le Var, par contre, on n'a plus un seul élu. Et la région PACA, ben, vous devez le savoir, il n'y a plus d'élus aussi à la région. Donc moi, j'appelle pour vous dire une chose, ou en tout cas poser une question, c'est il faudrait m'expliquer comment des candidats qui partent à la présidentielle hors primaire espèrent gagner, alors que finalement, ils ne vont même pas essayer de rassembler leur camp dans une primaire. Mmh. Et quel qu'il soit, parce qu'ils commencent à être nombreux maintenant, voilà, je considère que c'est une attitude au regard des dernières échéances électorales qui est un peu irresponsable, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment tiré les leçons de certains échecs. Mmh.
Merci Olivier pour cette question. La parole circule en sens inverse. Brice Teinturier.
Ce qu'évoque en creux, je crois, cet auditeur, c'est effectivement aussi ce qui s'est passé avant le 21 avril 2002, quand on avait eu une dispersion maximale à gauche et qu'elle avait coûté à Lionel Jospin sa qualification. Alors ce n'est pas que ça qui a coûté à Jospin sa qualification. Mais je me souviens, moi, d'études qualitatives faites 3 ou 4 semaines avant auprès des lecteurs de gauche, tenté par l'abstention, tenté par un vote sur l'extrême gauche ou par Christiane Taubira, etc. Leur leitmotiv, c'était de dire, on votera pour Jospin, mais au second tour. Là, il n'est pas assez à gauche, donc il faut lui donner un aiguillon. Et ils se sont réveillés tous avec Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Donc c'est ça qui est pointé avec raison aussi par notre auditeur. Et en même temps, s'il y a fragmentation, c'est également parce qu'il y a, sur le fond, des divergences qui sont importantes.
Laurent Bouvet,
ben on est
sur l'absence de dynamique.
On est dans le problème au milieu du gué. C'est-à-dire que la primaire, comme procédure de sélection des candidats dans les différents camps, est en train de s'installer dans la politique française, dans la vie politique française. Ça change en partie la logique de l'élection présidentielle, parce qu'on peut en rigoler en disant que c'est une élection présidentielle à quatre tours, hein, deux tours à la primaire, deux tours à l'élection, mais on n'est pas encore complètement dans cette logique où tout le monde se sent obligé, non pas que ça soit inscrit dans les institutions spécialement, mais que tout le monde se sentirait obligé de passer par la primaire parce que ce serait devenu le mode de sélection légitime de tous les partis, de tous les camps, et donc ceux qui se présentent encore dans le système de la Ve République, c'est-à-dire avec un premier tour qui est en fait une primaire à l'intérieur de tous les camps, hein, où on va décider quel va être le champion face au camp d'en face, qui est aujourd'hui un système qui continue d'exister, alors qu'on est dans une difficulté, puisque, pour simplifier très rapidement, il y a trois camps. Et dans ces trois camps, il y en a un où il n'y a pas de primaire, c'est le Front National, c'est le camp familial, on est candidat parce qu'on est de la famille. Il y a un camp qui a compris, parce que lui veut reprendre le pouvoir, cette droite dure, cette droite vraiment le cœur du réacteur de la droite française, avec François Fillon pour la première fois depuis Giscard, un candidat comme elle à la présidentielle. Donc cette fois, on va prendre le pouvoir, donc on s'y met, on pousse dans le même sens. Et vous avez vu que tous les autres candidats se sont rangés sans aucune difficulté. Mmh. Hein, ils sont déterminés, c'est à leur tour, ils veulent le pouvoir. Et puis on a la gauche, ça a bien marché la dernière fois, parce qu'on en voulait le pouvoir, il y avait vraiment Sarkozy à dégager, on voulait le pouvoir. Et aujourd'hui, bah évidemment, on sort de 50 pouvoirs compliqués, on disait tout à l'heure. Et donc là, évidemment, personne n'est capable de se hausser en disant l'intérêt général voudrait que. Donc on est dans une difficulté, on est dans un système institutionnel dans lequel la primaire est venue percuter comme un choc ce système et pose un certain nombre de questions qui ne sont évidemment pas résolues.
Laurent Baumel, député socialiste d'Indre-et-Loire.
Alors, je pense qu'en effet, Laurent Bouvet vient de le dire, la raison pour laquelle tout le monde n'est pas dans la primaire, c'est que les fractures qui ont été créés par ce quinquennat amènent un certain nombre d'hommes politiques, je pense par exemple à Mélenchon, à considérer qu'il ne pourrait pas accepter le résultat de la primaire si d'aventure, par exemple, François Hollande ou Manuel Valls l'a gagné. Bon. Mais en même temps, il a tort. Il a tort et c'est notre auditeur qui a raison. Parce que d'abord, lui-même, s'il venait dans la primaire, finalement, aurait peut-être une chance de la gagner. Nul ne le sait. Et puis surtout, de toute façon, si on a une pluralité de candidatures et qu'on n'arrive pas à créer une dynamique politique autour de cette primaire le moment venu, c'est pas exclu qu'on la crée, hein, moi j'y crois. Enfin, si jamais on n'y arrivait pas, le risque c'est effectivement d'avoir une gauche qui au total fasse un score correct, mais qui fractionnée en deux ou trois offres ne parviennent pas à se qualifier. Donc ceux qui ne participent pas à cette primaire portent quand même, et notre auditeur a raison, une responsabilité assez lourde dans ce qui pourrait se passer.
Xavier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous avez la parole.
Oui, alors moi je suis du Nord-Pas-de-Calais, une ancienne terre socialiste, je suis fonctionnaire et en plus je suis enseignant, c'est-à-dire si votant à gauche c'est pas évident. Et on n'imagine pas, enfin je vois autour de moi, mes collègues et amis, leur détestation des socialistes maintenant. Mmh. C'est plus que ça, et leur envie qu'ils perdent. Pourtant ces gens sont de gauche, hein, mais il y a un ressentiment énorme et indépassable. Et beaucoup d'entre eux, maintenant, hésitent à se tourner, bah, quitte à perdre, non pas vers la droite classique, mais parfois même vers le FN. Et on peut se poser la question de comment est-ce qu'on peut changer la chose. On a eu une gauche au pouvoir qui nous a menés en bateau avec Taubira sur des questions sociétales, le mariage gay, qui a lâché sur la laïcité. Et est-ce qu'on peut sortir de ça positivement? Alors, vous en parliez de Mélenchon, est-ce que c'est pas une des possibilités? S'il a réglé son problème avec le Parti communiste maintenant, s'il veut défendre une position laïque, s'il veut éviter le verriage habituel et les accords avec le PS, est-ce que ce n'est pas maintenant pour lui une possibilité de sortir par le haut?
Merci Xavier pour cette question que je soumets à Brice Teinturier.
Ce qu'on voit effectivement dans nos enquêtes depuis maintenant assez longtemps, c'est qu'une partie importante de la fonction publique serait prête à voter pour Marine Le Pen dans des proportions quasi équivalentes à l'ensemble de la population. Et c'est un fait nouveau. Il est notamment très puissant dans la fonction publique hospitalière. Il l'est un peu moins dans la fonction publique enseignante. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui vient alimenter ce que vous dites, monsieur, qui vient corroborer ce que vous dites. Ensuite, le deuxième point, c'est que vous avez exprimé, notre auditeur a exprimé, qu'il y avait une quasi-haine, si je crois, des socialistes. Mmh. Et effectivement, la rancœur s'exprime prioritairement à l'égard des socialistes, et il y a une tentation également du côté de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est quand même un fait relativement nouveau que cette fonction publique, qui votait, qui avait un tropisme beaucoup plus vers la gauche et vers plutôt le Parti socialiste, eh bien, se trouve maintenant assez éclatée entre le Front national, un vote de droite aussi qui existe, et puis Jean-Luc Mélenchon ou un candidat socialiste.
Vous la ressentez, vous l'éprouvez, vous la rencontrez, Laurent Baumel, cette haine des socialistes dont parlait notre auditeur?
Alors je crois que c'est plus ambivalent que ça. Par exemple, dans ma région, moi je suis élu d'Indre-et-Loire, donc de la région centre, le président de région sortant, François Bonneau, a été assez facilement réélu parce que c'était quelqu'un de vécu comme positif, utile, voilà, un socialiste qui a des valeurs et qui les met en pratique dans sa politique régionale. Et dans le fond, dans des endroits où nous avions perdu assez lourdement au municipal et au cantonal, on a fait un score très correct au régional. Donc je pense que c'est plus ambivalent que ça. Et bon, moi je suis ici autour de la table plutôt comme un acteur que comme un observateur. Et ce que je veux dire à notre auditeur, puisque visiblement c'est quelqu'un, il parle de son entourage qui a voté socialiste dans sa vie, c'est qu'on ne doit pas confondre la déception qu'on a et que je partage à l'égard de ce qu'a pu être ce quinquennat, la politique de François Hollande ou de Manuel Valls, avec un rejet global d'hommes et de femmes qui s'inscrivent dans un espace politique qui est celui d'une gauche qui veut gouverner. Parce que notre différence quand même avec Jean-Luc Mélenchon, elle est là. Et c'est important de la maintenir. C'est-à-dire qu'il y a une gauche en France qui veut gouverner et qui se heurte et qui s'affronte aux réalités et aux difficultés de ce que ça veut dire vouloir gouverner. Alors, on a un débat. Moi, ce que je reproche à Hollande et Valls, c'est d'avoir dérivé vers une ligne néolibérale qui, dans le fond, est celle du camp d'en face. Bon, mais je crois qu'on peut avoir un autre type de gauche qui gouverne et qui gouverne dans la fidélité à ses valeurs. Et donc, moi, je veux aussi adresser ce message à nos auditeurs. Il ne faut pas désespérer de la gauche gouvernementale ou du Parti socialiste. D'autres options seront proposées dans les primaires qui viennent.
Je passe la parole à Laurent Bouvet en l'accompagnant d'une question Internet. Pourquoi toujours culpabiliser les électeurs de gauche qui décident de voter Front National? Nous demande Vincent de Tourcoing. Moi, je voterai Marine au premier et au second tour de la présidentielle. Et ce ne sera pas de gaieté de cœur, mais pas le choix. Personne à gauche n'écoute le simple ouvrier que je suis. Laurent Bouvet.
Je crois que c'est un des problèmes principaux de la gauche. Alors là, on n'est pas simplement sur le quinquennat qui vient d'avoir lieu. On est sur 30 ans de gauche et 30 ans de lutte contre le Front National, affiché comme un objectif prioritaire de la rhétorique de gauche, toute gauche confondue depuis les années 80, au moment de l'émergence du Front National, et qui a aujourd'hui, compte tenu des chiffres réalisés, des scores électoraux réalisés par Marine Le Pen et de ce à quoi, on verra, on peut s'attendre pour cette présidentielle, totalement échoué. Donc là, il y a quelque chose qui est effectivement la stigmatisation du Front National en stigmatisant les électeurs du Front National comme, pour simplifier, mais enfin, des beaufs racistes, etc., qui n'ont rien compris, qui ne méritent qu'une chose, évidemment, c'est d'être totalement ignorés, que ce soit dans les politiques publiques, que ce soit simplement dans les discours. C'est quelque chose qui a fait énormément de mal à la gauche. Ça fait des années qu'on est un certain nombre, évidemment, à le dire, mais sans être véritablement entendu. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on arrive au bout de cette période historique, c'est-à-dire au moment où il pourrait très bien y avoir, et ça répond aussi à la question précédente, il pourrait très bien y avoir des gens qui diront aux sondeurs, même si déjà ils le disent un peu moins, ils ne s'en cachent plus, on le voit à la radio comme votre auditeur, on le voit dans les enquêtes dont parlait Brice Teinturier à l'instant, des gens qui ne vont pas dire qu'ils vont aller voter Front National, mais qui, pour défendre leur emploi dans la fonction publique, pour défendre leur petit salaire, pour défendre leur petite retraite, pour défendre la durée du temps de travail, vont aller voter Marine Le Pen parce qu'elle sera perçu comme le seul rempart, même s'ils n'adhèrent pas aux valeurs du Front National, même s'ils ne sont pas ces racistes, etc. Et donc, il y a ce risque aujourd'hui, mais malheureusement, on peut dire que la gauche a creusé sa propre tombe en la matière, et notamment auprès des catégories populaires qu'elle n'a pas su mobiliser pendant le dernier quinquennat, qui avaient espéré en 2012 et qui ont été encore plus déçus, si vous voulez, que d'autres durant ce quinquennat.
Brice Teinturier, encore un mot.
En fait, qu'est-ce qui définit la gauche dans son ensemble, que ce soit une gauche de gouvernement ou dite de gouvernement par rapport à une gauche qui ne le serait pas ou qui le serait moins? Il y a un point commun qu'on voit très bien quand on interroge les électeurs, c'est la question de la protection des plus vulnérables. Ça, c'est le trait d'union de toutes les gauches. Et l'État protecteur, c'est quelque chose qui est essentiel encore pour une série de Français. Et c'est cet État protecteur qui a été de moins en moins incarné, avec dans la fonction publique d'ailleurs souvent des agents qui nous disent il y a régression ou il n'y a pas assez de ceci ou de cela, que ce soit juste ou pas, parce que en réalité les mesures qui ont été prises ont plutôt été très fortement en faveur de la fonction publique et non pas en sa défaveur. C'est là où il y a un vrai paradoxe.
Alors.
Mais la fonction publique hospitalière
alors, d'accord.
ce qui a été fait. Mais du coup, ce sentiment ou cette réalité que l'État protecteur a reculé, eh bien, qui aujourd'hui la reprend à son compte? Marine Le Pen, beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'effectivement, ses électeurs sont tentés, et c'est rationnel, de voter pour elle.
Laurent Bouvet, un mot, et puis
juste,
passer
notamment,
au standard.
Très tout particulièrement, ce qu'on appelle les agents au guichet, qui sont en contact avec le public, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans la fonction publique territoriale ou d'État, on a des agents au guichet qui, aujourd'hui, sont à bout. À cause certainement d'un manque de moyens, mais aussi d'un durcissement des conditions sociales face à eux.
Passy, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Oui, merci de me donner la parole. Je vous appelle pour faire deux observations. Alors, souvent, quand on parle de la gauche, on parle du Parti Socialiste. Mais le Parti Socialiste n'est pas toute la gauche. Il y a également le Parti Communiste dans la gauche. Et c'est vrai que pour la droite et le centre, ils se sont rassemblés. Mais c'est pas le même cas pour la gauche. Ça, c'est la première observation que je voulais vous faire. Et la deuxième concerne les primaires qui viennent d'avoir lieu. Parce que les primaires qui viennent d'avoir lieu pour la droite et le centre ont mobilisé, certes, beaucoup de monde, mais en termes électoraux, il me semble que c'est 4 millions, c'est 10% seulement du corps électoral français.
Merci Passy pour cette double remarque. Prenons la dernière pour commencer. J'entendais Jean-Yves Camus aujourd'hui à la radio chez nos cousins de France Info dire que le vote de la primaire de la droite et du centre, mais plus généralement le vote des primaires, c'est un vote des inclus du système politique et non pas des exclus du système politique. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit après ce vote-là, car la question des inclus, des exclus du système politique et des effets que l'inclusion et l'exclusion peuvent avoir n'est absolument pas purgée par la primaire, Laurent Baumel.
Oui, il y a une part de vérité sans doute dans ce diagnostic. Il y a en France, et je pense que les politologues qui sont là pourraient le confirmer, il y a en France des noyaux durs, des électorats très politiques, des gens qui ont des traditions, des engagements, qui votent toute leur vie dans le même couloir d'une certaine manière, qui sont par nature les électeurs privilégiés des processus de primaire. Et puis il y a toute une autre catégorie de la population qui, à mon avis, est majoritaire aujourd'hui, qui est un électorat plus sociologique, plus flottant aussi, qui peut aller vers la droite, vers la gauche, et parfois même traverser assez largement les espaces électoraux, en fonction de la façon dont les uns et les autres prétendent répondre ou apporter des réponses à leurs problèmes. Par exemple, la question de la protection dans la mondialisation est un enjeu majeur qui a pu amener des salariés, des ouvriers à voter à un moment donné pour la gauche, puis à un autre moment pour la droite, puis peut-être pour le Front National, puis peut-être demain de nouveau pour la droite ou pour la gauche. D'où l'importance aussi dans ces primaires d'offrir une pluralité de candidatures qui permettent non seulement évidemment aux électeurs plus politiques de faire leur choix, mais d'envisager derrière des processus de reconquête de ceux qui ne sont pas marqués définitivement à gauche ou à droite.
Sur les inclus, les exclus, oui. Laurent Bouvet, puis Brice Teinturier.
Je suis assez d'accord avec la remarque que vous citiez de Jean-Yves Camus. Simplement, inclusion, exclusion, c'est en sociologie comme en politique quelque chose qui doit être recoupé avec d'autres éléments. Et particulièrement, par exemple, le clivage entre les questions économiques et les questions qu'on appelle culturelles, identitaires, etc. Parce qu'on peut être inclus économiquement, en étant et en se sentant exclus culturellement ou idéologiquement dans la société. Voir le vote Fillon. Il y a dans le cœur de cette droite, libérale économiquement, conservatrice sur les mœurs, la société, et puis patriote souverainiste sur les questions européennes et internationales, il y a cette idée... aussi, avec le mariage pour tous, cette idée d'une revanche. Je n'irais pas à dire comme un titre célèbre, un mai 68 à l'envers, mais il y a cette idée que cette fois, on va vraiment déconstruire cette société trop laxiste, trop libertaire, etc. Alors, on va pas revenir sur l'IVG, parce que bon, mais quand même, on va essayer de dérembourser, on va... Vous voyez, donc il y a quand même cette idée qu'il y a des clivages, même chez les inclus, et c'est la même chose chez les exclus. Il peut y avoir des exclus qui se sentent totalement exclus sur tous les l'ensemble des sujets. On a vu avec la question des périurbains, etc. Mais qui peuvent aussi avoir des éléments différents. Et ça rend très difficile le travail de nos amis sondeurs, bien sûr. Ça rend très difficile l'analyse parce que, comme le disait très bien Laurent Baumel, on a des électorats très très mouvants. Hein. Et en plus, à condition qu'il y ait une participation qui ne varie pas, elle non plus, d'une élection à l'autre, ce qui est un problème.
Les exclus ne se sont pas encore exprimés, Brice Teinturier.
Non, mais ce qui est clair, c'est que ce soit l'occasion de la primaire de la droite ou de la primaire de 2011 de la gauche, sociologiquement parlant, ce sont malgré tout des personnes plus âgés, plus insérés, qui ont des revenus du foyer plus élevés. Alors, il peut y avoir, ce que Laurent Bouvet indiquait, évidemment, aussi, qui s'exprime dans la primaire de la droite. Il y a une sorte de revanche aussi de la province contre Paris, oui, contre un système, contre les journalistes, les médias, les sondages, les sondeurs, etc., etc. Tout cela existe. Mais malgré tout, ce qui est juste, c'est que les catégories populaires, les catégories qui se sentent les plus exclues, qui se sentent le plus à la marge, sont celles qui sont sous-représentées, totalement sous-représentées dans ces électorats primaires. Et c'est pour ça que moi j'essaie d'attirer toujours l'attention en disant attention, ce n'est pas la France qui a voté. Ce n'est même pas 10% d'un corps électoral qui serait à peu près représentatif. Les différences sont massives. Les électeurs qui ont participé à la primaire de la droite, eh bien quand vous regardez la variable de l'âge, ils sont de 20 points. Si vous prenez les plus de 50 ans, il y en a 20 points de plus que dans la population générale.
Donc il faut continuer à se dire que tout est absolument ouvert. Tout est absolument indécis, tout est extrêmement volatile. Brice Teinturier ?
Peut-être pas à ce point, parce que malgré tout, on est dans un pays où on a des élections, je ne parle pas de sondage là, mais des élections passées qui nous disent bien que la gauche n'est pas à 40%. Si elle était entre 35 et 40%, ce serait une bonne nouvelle pour elle. Elle est plutôt en dessous.
30-35.
Voilà, 30-35. Et
c'est un vrai tiers, en fait.
Et 30-35, ça traduit quand même une faiblesse de la gauche aujourd'hui, que ce soit aux européennes, aux municipales, aux régionales, aux départementales. Alors certes, les régionales se sont un peu mieux passées, mais malgré tout, la gauche, indéniablement, est affaiblie aujourd'hui dans le pays. Donc ça ne va pas, ça peut évidemment évoluer, mais ça ne va pas changer non plus brutalement du jour au lendemain. Pas plus que le Front National ne va disparaître du jour au lendemain. Donc il y a des plaques tectoniques qui sont là.
Laurent Baumel, vous voulez dire un mot ?
Non, mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que la réflexion qui vient d'être faite me conforte dans mon idée qu'il sera important dans la primaire de la gauche qui aura lieu en janvier, que les gens qui viendront participer à cette primaire, bien sûr, pour exprimer leur propre adéquation idéologique avec tel ou tel candidat, aient aussi en tête que cette primaire doit servir à un processus de reconquête électorale, et notamment d'électeurs peut-être plus populaires qui ne viendront pas à la primaire, mais qui ont été des électeurs de gauche et qu'il faut reconquérir. Et c'est pour ça, par exemple, que moi, je le répète, je soutiens dans cette primaire un candidat qui, me semble-t-il, est capable de reprendre à son compte ces problématiques de la protection, de l'alternative face à la mondialisation libérale, parce que je pense que c'est une des clés de la reconquête de l'électorat populaire face au Front National.
Je vais préciser ma question et vous la soumettre, Laurent Bouvet. Est-ce que le fait qu'un vote conservateur se soit exprimé exclut le fait qu'un vote populiste, entre mille guillemets et faute de mieux, puisse se manifester ?
Non, du tout. Il ne faut pas les confondre.
Voilà, c'est ça. Les deux peuvent se cumuler.
Ah oui, le populisme, pour prendre la définition, la définition, il n'y a pas de véritable définition, mais la définition la plus admise, n'est pas une doctrine ou une orientation politique, c'est ce qu'on appelle un style politique. C'est-à-dire que ça s'applique effectivement à différents types de doctrines d'idéologie, voire d'absence de doctrine ou d'idéologie. Donc il ne faut surtout pas les confondre. Il y a dans le populisme un aspect essentiel, modèle structurant qui est la verticalité de différenciation entre le haut et le bas, qu'on ne trouve pas dans le conservatisme. Mmh. Le conservatisme, qui peut d'ailleurs s'appliquer aussi bien en haut qu'en bas, vise à préserver un système, à préserver un certain nombre de valeurs, d'idées, de principes, de modes de vie, etc. Donc c'est absolument différent.
Vos invités pensent-ils, nous demande Françoise de Brest, que François Hollande doit se représenter? Et si oui, a-t-il une chance de l'emporter avec un si mauvais bilan et si peu de Français satisfaits de son action? La question est cash, comme on dit en bon français. Laurent Baumel, j'ai déjà une idée de votre réponse.
Ah ben moi, ma réponse, elle est simple. Puisque nous avons obtenu une primaire, et j'espère que personne n'aura l'idiotie de la remettre en cause dans les jours qui viennent.
Bon. Ça se raconte, ça?
Oui, il y a quelques velléités ici ou là d'amis du président de remettre peut-être en cause. Bon, je pense que c'est pas sérieux et ça conduirait très honnêtement à une explosion gravissime de toute notre famille politique. Donc, je pense que la primaire aura lieu, que c'est pas sérieux de vouloir la remettre en cause. À partir du moment où elle a lieu, François Hollande, s'il le souhaite, est légitime à être candidat dans cette primaire, mais nous sommes légitimes à lui opposer d'autres candidatures. Bon, moi, je le répète, je soutiens Arnaud Montebourg pour qu'il y ait ce débat sur le sens de ce qu'a été le quinquennat et le sens des projets que nous entendons porter devant les Français. Donc, si nos auditeurs de gauche ont envie de dans le fond que la gauche soit incarnée dans l'élection présidentielle, la gauche gouvernementale en tout cas, par quelqu'un d'autre que François Hollande, ils ont un processus très simple. Ils viennent à la primaire et ils votent pour un candidat de l'alternative.
Je vous pose la question, je pense l'avoir déjà posée au téléphone sonne. Est-ce qu'en sondologie, politologie, on a déjà vu quelqu'un partir d'aussi loin, d'aussi bas et gagner une élection présidentielle, pour reformuler la question de Françoise? Là, je parle de François Hollande, Brice Teinturier. On a déjà vu un tel niveau d'impopularité s'inverser et devenir autre chose.
Là où il faut, je crois, préciser la question, c'est s'agissant d'un président sortant. Mmh. Parce que c'est très différent quand il s'agit d'un candidat. Et François Hollande était très bas en 2010.
Monsieur 3%. 2011, François Fillon monsieur était très bas aussi.
Voilà. Mais quand vous n'avez pas encore exercé le pouvoir, en fonction de l'offre électorale, en fonction de la conjoncture, en fonction de nombreux paramètres, vous pouvez partir de très loin et être élu. L'analyse, elle est complètement différente quand vous êtes un président sortant, parce que là vous avez agi, vous avez un bilan. En général, ce bilan vous plombe, vous est plutôt reproché, et du coup l'élasticité potentielle du vote me paraît très différente. Et c'est un point majeur qui oppose une campagne présidentielle à une campagne des primaires. Dans une campagne présidentielle, beaucoup de choses se jouent très en amont et la campagne peut venir rééquilibrer, rarement inverser, rééquilibrer. Dans une campagne de primaire, c'est l'inverse. La cristallisation, elle s'est faite extrêmement tardivement. Plus on se rapprochait du scrutin, et plus au contraire, on voyait de la fluidité. Pourquoi ? Parce que, par définition, c'est aussi une campagne où ne pèse pas le bilan des sortants comme dans une présidentielle. Et du coup, on est à l'intérieur d'une même famille politique, et du coup, eh bien, la fluidité est beaucoup plus importante.
Laurent Bouvet, d'un mot ?
Le côté baroque, on en parlait tout à l'heure pour la 5e République primaire par rapport à l'élection, c'est qu'un président de la République sortant se présente dans son parti à une primaire. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est évidemment totalement inédit, ça, pour répondre à votre question, c'est évident, tout le monde s'en rend bien compte, mais qui est d'un baroque achevé. Enfin, on nous aurait simplement donné ça comme hypothèse il y a encore 3 ans, mais tout le monde aurait rigolé autour de cette table, et a raison.
Serge, bonjour. Bonsoir, pardon. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Normandie.
Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Normandie. Alors la première chose, c'est un petit préambule pour dire que quand j'entends qu'on laisse penser que le Front National pourrait avoir des solutions pour les fonctionnaires et les gens défavorisés, c'est quand même hallucinant quand on sait que Marine Le Pen est une famille de millionnaires et qu'elle a toujours un programme libéral.
Tous nos invités vont vous répondre sur ce point, Serge.
Donc par contre, sur la question que je voulais poser, c'est que je ne comprends pas par rapport à la primaire de la gauche, quand on parle de la gauche et quand on parle de sa réorganisation, comment est-ce qu'on peut laisser penser que les candidats de gauche sont uniquement Valls, Hollande et Macron, alors qu'il y a eu un accord ce week-end pour que les communistes soutiennent Mélenchon, qu'il est donné à plus de 15% des sondages, et que c'est vraiment quelque chose dont, moi j'ai l'impression qu'on ne parle pas du tout dans les médias, et donc avec toutes les conséquences que ça peut entraîner.
Merci Serge pour cette question. Qui veut réagir, oui, Laurent Bouvet, pour commencer?
Sur Marine Le Pen, je crois, Serge, que c'est absolument pas ce que nous avons dit. Nous avons dit que Marine Le Pen pourrait, si elle faisait une campagne habile, récupérer, comme elle le fait déjà dans son électorat, une partie du vote de la fonction publique, notamment des petites catégories, parce que elle se poserait en défenseur de l'emploi public. Ça ne veut pas dire qu'elle vient d'un milieu favorable à la fonction publique, ça ne veut pas dire qu'elle a une offre spécifiquement intéressante et attractive pour la fonction publique, c'est-à-dire que l'habileté politique n'est pas simplement la vérité en soi d'un programme ou d'un projet. Je crois qu'il faut bien distinguer les deux.
Allez, on donne la parole à Simon. Simon de Reims, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Donc, moi, j'ai une question assez simple. Donc, je suis de gauche, j'ai toujours voté à gauche par tradition, on va dire. Je me pose juste la question, on est à 6 mois des présidentielles. Moi, je pense déjà que Marine Le Pen et Fillon vont se retrouver au second tour. Et je trouve ça un petit peu triste de ne pas avoir de candidat de gauche, un projet socialiste dans lequel je pourrais me retrouver, quoi. On est à 6 mois et je sais toujours pas pour qui voter. Et les primaires vont se faire en décembre, janvier. Ça va encore être une histoire de personnes plutôt que de projets politiques. Voilà.
Merci Simon. C'est vrai qu'on est très près de l'échéance et beaucoup de questions de fond. Je parle même pas des questions de personnes qui sont pas tranchées, mais même les questions de fond, les questions de ligne. Oui. Qu'est-ce que c'est que la gauche, laquelle va à l'élection que pouvez-vous répondre, Laurent Baumel ?
Alors, Simon a raison sur un point, c'est que comme ce calendrier des primaires a été construit pour permettre à François Hollande de prendre une décision tardive, au motif ou au prétexte, je ne sais pas, qu'il fallait qu'il puisse continuer à exercer la fonction présidentielle le plus longtemps possible. C'est vrai que du coup, notre auditeur peut avoir l'impression que la droite a pris beaucoup d'avance et que nous, on va courir derrière. Bon, cela dit, je veux le rassurer, Simon, en janvier, il va y avoir un vrai débat. Il sera court, mais il sera intense. Et ce débat sera bien un débat entre deux lignes politiques, deux projets. C'est pas un débat entre deux personnes. Si François Hollande a aujourd'hui, à l'évidence, un problème d'incarnation que son propre Premier ministre pointe. Mais si ça n'était que cela, si nous n'avions été que dans un débat de personnes, Nicolas Demorand, il n'y aurait pas cette primaire baroque et inédite dont parlait Laurent Bouvet. C'est parce qu'il y a un problème de ligne et des auditeurs comme Simon, si ça les intéresse et je l'encourage, pourront venir en janvier prochain trancher des options idéologiques et programmatiques.
Des mots conclusifs, Brice Teinturier, Laurent Bouvet.
Je voudrais juste rajouter qu'une primaire n'a pas seulement un pouvoir légitimant pour un candidat, elle a un pouvoir de légitimation des idées qui y sont développées. On l'a vu avec la primaire de la droite, justement ces idées autour de la tradition ont réveillé un électorat catholique épris de normes et de traditions, et ça légitime ce courant-là. Donc la primaire de la gauche, elle sélectionnera un candidat, elle le poussera bien entendu, mais elle peut être aussi l'occasion de légitimer, de rendre plus forte une ligne qui se dégagerait à l'occasion des débats.
Laurent Bouvet.
Moi, juste une citation du grand premier ministre du 19e siècle anglais, Disraeli, qui était le premier ministre conservateur, qui disait « Il faut voter avec son camp comme un gentleman et non avec ses convictions comme un aventurier ». Je crois que c'est une bonne leçon pour la gauche aujourd'hui.
Merci à tous les trois. Laurent Bouvet, qui avait la parole à l'instant, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Laurent Baumel, député PS d'Indre-et-Loire, soutien d'Arnaud Montebourg. Et Brice Teinturier, politologue, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Merci à vous, amis auditeurs de France Inter. Vous étiez très nombreux au téléphone sonne ce soir. On reviendra, je pense, dans les jours qui viennent aux questions politiques. Elles nous passionnent.